La FMF, Fédération des médecins de France, est le deuxième syndicat de médecins en France derrière le CSMF depuis 2015. Créé en 1968, il se réclame indépendant des partis politiques, de l'industrie pharmaceutique et du monde des mutuelles et des assurances. Il défend l'indépendance de la médecine libérale et la médecine de proximité. Jean-Paul Hamon, son président, était présent à Royères-de-Vassivière ce jeudi pour défendre la médecine de proximité avec le docteur Étilé du centre de santé 1000 soins à Royères-de-Vassivière. Voici quelques morceaux choisis de la conférence de presse qu'ils ont réalisée ce jour-là.
C'est Jean-Paul Hamon, je suis médecin généraliste à Clamart dans un groupe de 5 médecins généralistes et je suis président de la Fédération des médecins de France.
Nous, ce qu'on demande à la Fédération des médecins de France, c'est que les internes, pour les inciter à venir dans ces zones démographiquement faibles ou éloignées de la fac, on leur dit doubler le salaire de l'interne pour qu'il soit vraiment incité à venir. Ça se fait en Corse. Les Corses n'avaient plus d'internes parce que, vous savez, quand vous êtes interne, vous arrivez en fin d'études, vous avez souvent une famille et donc vous essayez de mettre un peu de beurre dans les épinards en faisant des gardes. Et en Corse, il n'y avait pas assez de gardes hospitalières, donc les internes qui allaient touchaient leur salaire, point. Donc ils venaient pas. Donc les Corses, ils ont pris le taureau par les cornes, la région a payé le transport, a logé les internes et a doublé le salaire de l'interne. Résultat, en Corse, ils ont de nouveau des internes, et non seulement ils ont de nouveau des internes, mais comme les mecs remplacent à droite à gauche, l'installation a redémarré en Corse, alors qu'elle était en train de s'effondrer. Et donc là, ici, moi ce que je demande, ce que nous on demande, c'est que pour que vraiment les jeunes soient incités à venir ici, il faut que la région, je sais pas, mais quelqu'un mette doubler le salaire carrément de l'interne pour qu'il soit vraiment incité à venir ici. Et quand il va découvrir la médecine de premier recours, eh bien la démonstration est faite ici, c'est que les deux collaborateurs qui viennent donner un coup de main aux médecins, ce sont d'anciens internes qui sont venus ici. Donc la démonstration est faite, si les jeunes découvrent l'exercice libéral lors de leurs études et qu'ils sont incités à le faire, eh bien il n'y aura aucun problème de démographie, parce que qu'est-ce qui va se passer quand ils vont avoir, quand les gamins vont arriver en 6e? Alors il va se poser la question, est-ce que je mets les gamins en pension ou est-ce que je déménage pour me rapprocher de la ville. Mais pendant les 7-8 ans où le gamin va arriver à l'âge de la 6e ou l'âge de la 3e, eh ben, il y aura un espèce de turnover qui va être, il y a un roulement qui va être institué, et il y aura la garantie d'avoir toujours des médecins sur place pendant une continuité suffisante, c'est-à-dire qui durera au moins 10 ans. Alors bon, il y a des Parisiens comme Jean-Claude qui vont rester un peu plus longtemps, mais c'est ça, les conditions de l'exercice, c'est pas d'instaurer la coercition. Moi, je me souviens en 2002, quand il y avait eu le mouvement des médecins généralistes, on avait dit, surtout, ne mettez pas la coercition. Et les types qui manifestaient le plus, moi je me souviens, c'était les gens de la Sarthe et de la Mayenne, qui étaient les plus actifs dans la coordination nationale. Et il y en avait un qui défilait avec sa pancarte régulièrement, et j'ai même fini par lui faire une banderole parce que sa pancarte était mal foutue. Un médecin qui s'en va, c'est un village qui meurt. Et je comprends pas. Alors, plusieurs maires ont fait ce calcul-là, au point qu'ils construisent eux-mêmes une maison de santé sans être sûr d'avoir un médecin dedans. Donc, c'est l'erreur à ne pas faire. Mais ils ont bien compris que quand le médecin s'en va, la pharmacie ferme. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans un patelin où il n'y a ni médecin ni pharmacien, ben, les commerces, ils commencent un peu à péricliter. Et puis les gens qui veulent s'installer dans un village, ils se disent « Bon, attends, là, on est un village où il n'y a pas de commerce. » Donc, l'immobilier s'effondre. Donc, si vous voulez avoir un médecin sur sa commune ou dans le coin, c'est un vrai investissement. Et c'est une garantie foncière même pour... Et donc, vous comprenez les enjeux. Mais si vous installez la coercition, eh bien c'est simple. Les jeunes, ils n'iront jamais en libéral. Ils ne s'installeront jamais. Ils resteront dans le salariat.
Comment ça fait ? Il y a quelques députés, il y a quelques députés que ça démange régulièrement. Il y en a un ou deux qui disent « ça suffit, il faut installer la coercition. Après tout, on leur paye leurs études, etc. » Et alors, sur le fait de payer les études, je peux vous dire que les internes, pendant les 3 ou 4 dernières années de leur troisième cycle, ces gens-là, ils sont payés 6,50 € de l'heure. Eh bien, je peux vous dire que pendant les 4 dernières années de leurs études, ils remboursent largement les études qu'ils ont faites.
Il faut imaginer qu'un interne, c'est payé en fin de cursus un peu plus de 2 000 €. Pour quelqu'un qui a une trentaine d'années, parce qu'en fait, les gamins, ils passent le bac à 18 ans, il leur faut 2 ans pour réussir au concours, ils ont 6 ans d'études, et après, ils ont l'internat qui dure 4 ans. Donc, vous avez des gens qui ont une trentaine d'années qui gagnent 2 000 €. Vous imaginez un gamin qui, de la même classe sociale, si on compare des choses comparables, qui a fait une classe prépa, qui a fait des études d'ingénieur, au bout de 5 ans, il est ingénieur. Donc à 24 ans, il commence à gagner sa vie. Et quand il gagne sa vie, il gagne sa vie à 3 000-4 000 € par mois. Donc vous avez un différentiel qui est énorme. Et quand on vous dit 2 000 €, le temps de travail des internes, à l'heure actuelle, ça tourne entre 80-90 heures de travail hebdomadaire. Donc en fait, quand on dit que les études sont gratuites, je pense qu'un étudiant en médecine paye largement ses études.
Il rembourse largement ses études.
Parce qu'il commence à les payer dès l'externat. Ce qu'on dit, ce qu'on laisse croire, c'est que les études sont gratuites, que les étudiants en médecine sont des gens privilégiés, ce qui est en partie vrai, parce qu'effectivement, socialement, ils viennent de milieux plutôt favorisés. Mais ceci dit, c'est pas une raison. Parce que, au vu de ce que j'ai vécu, au vu de ce que continuent à vivre les étudiants en médecine, je pense qu'ils ont largement payé leurs études.
Ce sont des jeunes qui découvrent l'exercice médical, qui découvrent la maladie. C'est des gens brillants qui ont passé un concours très difficile, très sélectif. Et puis, quand ils sont confrontés à la maladie, quand ils sont confrontés à la fragilité de l'existence, eh bien, on a vu, on l'a constaté récemment, là, il y a eu une période où il y avait un interne qui se suicidait tous les mois et personne ne bougeait. Donc, si vous voulez, c'est un métier qui est particulièrement dur à exercer, qui est très, très mal payé pendant leurs études. Donc, ils remboursent largement leurs études et je pense qu'on devrait beaucoup les protéger, quoi. Il faut les protéger et si on veut les inciter à s'installer, il faut qu'ils connaissent l'exercice libéral. Il faut favoriser cette installation dans les zones démographiquement faibles avec des incitations fortes. Hein. Si on double le salaire, vous savez, il n'y a pas 50 000 zones désertiques en France, hein, très éloignées. Hein. Bon, il y a les îles, il y a des zones comme ici. Il faut carrément doubler le salaire pour que les jeunes ils se bousculent pour venir ici, pour connaître l'exercice libéral. Et donc ça assurera forcément un turnover.
Une position, c'est que c'est à la fois, il y a quelque chose qui dépend à la fois du territoire. Il faut que le territoire mette la main à la pâte, c'est une chose. Il y a quelque chose qui dépend aussi de la politique nationale. Moi, ce que je dirais, c'est que pour moi, il faudrait que le contrat social, qu'il y ait un vrai contrat social entre l'État et les médecins, puisque les médecins, ils ont une fonction qui est évidente, on peut les critiquer, mais ils ont une fonction qui est évidente, et il faut que le contrat social puisse être un vrai contrat social. C'est-à-dire que des gens à qui on demande, au contraire du restant de la population, qui est une population qui est effectivement une population globalement... où il y a plus de temps libre. Il faut quand même imaginer que dans une société où on a des gens qui vont prendre 5 heures, qui ont 5 semaines de congés payés, on va demander, plus ou moins, voilà, mais on va demander à des gamins de venir s'installer. Les contrats qu'on nous fait signer, il faut imaginer qu'on nous demande d'être ouvert de 8h à 20h, du lundi au vendredi, d'être ouvert le samedi matin de 8h à midi, d'assurer la permanence des soins. Alors la permanence des soins, c'est un truc qui est complexe, parce que c'est d'assurer la permanence des soins en étant présent dans le cabinet, d'assurer la permanence des soins en nous demandant de nous déplacer de jour comme de nuit, en échange que le contrat social nous donne une compensation. C'est-à-dire, en fait, il faut que ce soit un vrai contrat. C'est-à-dire qu'on a des contraintes, et en échange, il faut nous donner des conditions de vie qui soient...
Alors, des conditions
pas très aisées, mais confortables, qui nous permettent de voir venir.
On manque de maîtres de stage. Et donc, c'est pareil, quand je disais qu'il fallait une incitation pour que les internes connaissent l'exercice libéral, la preuve est faite, et c'est pour ça que je suis venu ici, c'est que la démonstration est faite. Si les jeunes découvrent l'exercice libéral en tant qu'internes, ils n'ont plus peur de s'installer. La preuve, c'est que les deux collaborateurs libéraux qui sont venus ici sont d'anciens internes. Donc, c'est la preuve. Et ces gens-là vont s'installer. Ils vont s'installer dans le coin. Donc, ça, si vous voulez, c'est ça, pour moi, c'est fondamental. On doit mettre l'accent là-dessus. La modification des études dans toutes les spécialités, hein, que ce soit en médecine générale ou dans les autres spécialités. Il ne faut plus que les jeunes aient peur de s'installer en libéral. Parce qu'on voit bien avec les hôpitaux qu'il y a ici, quand même, il y a des hôpitaux locaux qui vous coûtent très cher, avec une efficacité qui est plus que douteuse. On voit l'investissement que c'est pour en matière d'argent et d'efficacité. Donc, il faut que l'exercice libéral soit présent. Ça coûte bien moins cher qu'une structure hospitalière locale ou loco-régionale. Il faut inciter les médecins à être maîtres de stage. Et pour les inciter, il n'y a pas 50 façons. L'hôpital perçoit ce qu'on appelle un MIGAC enseignement, une mission d'intérêt général enseignement. Nous, on dit que pour être maître de stage, il faut avoir les moyens d'accueillir correctement l'interne, c'est-à-dire de ne pas être avec un seul cabinet, d'avoir un deuxième cabinet comme ici où avec une messagerie interne l'interne peut consulter en toute sécurité s'il a un souci, il met discrètement un message à son médecin ou si l'autre est parti en visite, il l'appelle, etc. Donc il faut des conditions correctes et pour inciter les jeunes, les médecins à être maîtres de stage, il n'y a pas 50 façons. Hein. Si on donnait 20 000 euros, si on donnait une fonction, le type qui est maître de stage doit toucher 3 600 euros par an, hein, c'est ça ?
Il faut,
quand je dis qu'il faut un plan Marshall sur la médecine libérale, il faut investir massivement sur la maîtrise de stage. L'hôpital touche des MIGAC d'enseignement hospitalier, il faut que les libéraux puissent également toucher une partie de ce MIGAC enseignement. C'est capital si on veut enrayer la chute démographique. Vous savez, on est ici dans la Creuse, mais Paris, intramuros, a perdu 20% de ses généralistes en 10 ans. Vous vous rendez compte ? Sur 30 médecins, sur 100 médecins diplômés qui arrivent, il n'y en a que 9 qui s'installent la première année de leur diplôme. Les autres mettent 10 ans à s'installer et il n'y en a que un peu moins de 40% qui s'installent. Alors qu'il y a 30 ans, 60% des médecins diplômés s'installaient en libéral. Donc, il y a une vraie crise de la médecine libérale et la seule solution, c'est un, que les médecins puissent travailler dans des conditions correctes, avec un secrétariat pour accueillir les patients, avec une informatique communicante pour sécuriser la prise en charge des patients. Et ici aussi, les médecins ont partagé leurs fichiers sur Internet, si bien que si vous êtes pris en charge par le médecin qui est à 15 km d'ici, eh bien, il connaît vos antécédents, il connaît votre ordonnance. Donc, il faut qu'il y ait une vraie coordination des soins. Et puis, surtout, une chose dont on n'a pas encore parlé, que la sécurité sociale cesse de harceler les médecins s'ils prescrivent trop d'arrêts de travail, trop de transports en ambulance, trop d'antibiotiques ou trop de séances de kinésithérapie. Donc si vous voulez, les médecins sont d'accord pour être contrôlés, mais quand on voit ici que toute la zone de tous les médecins de Limoges ont reçu un courrier de la Caisse d'assurance maladie très intimidant, leur disant « Vous ne faites pas assez de tiers payants pour les affections de longue durée, je vous demande de bien vouloir remédier à ça », je peux vous dire, vous ne travaillez pas dans de bonnes conditions de sérénité. Il semble que le nouveau directeur, depuis 2 ans, semble vouloir apaiser les choses et faire en sorte que s'il y a un contrôle sur les médecins, il y ait d'abord une commission de conciliation où il rencontre les médecins libéraux du coin avec les médecins conseils pour qu'ils puissent expliquer sur le fait que lui fait plus d'arrêts de travail que ses collègues ou qu'il prescrit plus de transport en ambulance. Mais je peux vous dire que la sérénité dans le travail, c'est pas acquis. Hein. Et donc c'est un élément aussi qui est très important dans le fait que les gens s'en aillent. Il y a eu des contrôles récemment. Il y a des médecins qui ont été contrôlés, qui étaient « Bon, c'est bon, j'arrête. » Ils ont dévissé leur plaque et ils sont partis s'installer dans le salariat. Résultat, ça aggrave la démographie. Et donc là, moi, je trouve que c'est intéressant que vous soyez là, monsieur le maire, et vous aussi, parce que je trouve que les investissements qui ont été faits ici ont été faits de façon intelligente. Il y a eu un projet médical et puis vous avez investi sur quelque chose qui fonctionne parce que Jean-Claude Détillé accueille les internes, il a partagé son fichier et donc je pense que vous, maintenant, c'est parti, ça va rouler, mais il faut faire attention à ça. Si vous voulez, si on arrête l'incitation sur la maîtrise de stage, si on continue de harceler les médecins, il y en a peut-être. Si lui s'en va, je peux vous dire que ça fragilise la chose.
Jean-Luc Léger, donc conseiller départemental du canton de Feltin, canton très, très rural, voilà. Je ne représente pas les élus, je ne représente que moi-même. Je considère que les mesures coercitives ne sont pas de bonnes décisions à prendre. Je n'y crois pas du tout. Bon, les médecins en ont fait une très bonne démonstration puisque c'est leur métier. Effectivement, on a très peu de jeunes médecins qui s'installent comme généralistes. Si on prend des mesures coercitives, je pense qu'effectivement, il n'y en aura plus du tout. Je crois plus aux mesures incitatives, notamment la création de maisons de santé comme on en a une ici, pour peu qu'au préalable, il y ait un projet de santé, un projet de partenariat entre médecins et professionnels de la santé. Sinon, c'est le risque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on s'est rencontrés, c'est le risque d'avoir une coquille vide. C'est ce qui arrive dans certaines communes. C'est-à-dire que le maire a peur de ne plus avoir de médecin, construit en vitesse donc une maison de santé. On peut comprendre face à cette peur, face aux habitants qui lui disaient alors et alors et alors. Donc il fait une maison de santé, mais il n'a pas pris le soin au préalable d'avoir un projet de partenariat entre médecins, entre professionnels de santé. Finalement, c'est une coquille vide. Mais ça peut marcher. Royères, Faux-la-Montagne en sont des démonstrations évidentes. Je crois beaucoup, mais alors beaucoup aussi, au fait que si on fait découvrir la ruralité, la campagne, effectivement, à des internes, alors ils prendront goût à cette campagne. Parce que sinon, comment faire aimer quelque chose qu'on ne connaît pas ? Comment faire aimer la campagne de Royères à un Montpelliérain, un Toulousain qui n'a jamais entendu parler de la Creuse ? Par contre, si on l'accueille ici, ou même peut-être un Limougeaud, si on l'accueille ici, effectivement, il va se rendre compte qu'il peut avoir des conditions de pratique de l'exercice de la médecine tout à fait agréables, avec une approche humaine que peut-être il ne trouverait pas en ville, etc., etc. Donc je fais partie de ceux qui croient plus aux mesures incitatives qu'aux mesures coercitives. Peut-être alors, comme mesure coercitive, le fait que si un département accorde des bourses pour un étudiant en médecine, peut-être qu'y a-t-il un engagement en contrepartie à prendre sur une certaine durée d'exercice de la médecine dans ce département. Je crois que la Manche l'a fait, je ne sais pas quel en est le résultat. Bon, là, ce n'est pas tellement coercitif, c'est plutôt donnant-donnant. Il y a des départements qui pratiquent déjà l'accord de bourse à de jeunes étudiants en médecine qui ensuite prend une sorte d'engagement à rester pendant peut-être 5 ans dans le département qui leur a accordé cette bourse. Je trouve ça normal que le contribuable de ce département ait un retour sur investissement. Le mot n'est pas très joli, mais enfin quand même. Je crois qu'il reste à inventer quand même un modèle d'équilibre entre l'exercice libéral de la médecine, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais en même temps l'équilibre avec ce qu'investit la force publique. parce que c'est l'argent du contribuable. Donc, il faut trouver cet équilibre, en particulier en zone rurale. Je ne suis pas sûr que ce soit aux collectivités de payer l'interne, par exemple. C'est peut-être plutôt du côté de la sécurité sociale à exercer ça. Parce que nous sommes sur des collectivités, en particulier ici, qui ont peu de moyens et qui ont de moins en moins de moyens.
Je voulais juste vous corriger. Le médecin, il a entendu parler de la Creuse pendant ses études.
Ah.
Parce que, je vais vous dire, si le gars, un jour, ne travaille pas, on lui dit, si tu continues à bosser comme ça, tu vas finir médecin généraliste. Première injure. Et médecin généraliste dans la Creuse.
Ah, vous
voyez,
double
médecin
peine.
Généraliste dans la Creuse. Donc, si vous voulez, ça, lui, il a sûrement entendu ça.
Et du coup, il dit, je vais y aller. Mais c'est vrai que c'est des phrases qu'on entend, mais pas tous les jours, parce que quand même, on bosse pas mal. Mais si vous faites une connerie, tu continues comme ça, tu vas finir médecin généraliste dans la Creuse.
Les films sont pleins de ce genre de choses. La souterraine,
le type, il en a entendu parler de la Creuse. C'est ça, là.
Les clichés vont bien sur la Creuse.
Donc en fait, nous sommes 4 médecins installés à Faux-la-Montagne, à Perlevade, à Bugin et à Royère. 5 pharmaciens, une dizaine d'infirmiers, et donc en association avec les élus locaux, au travers d'un projet qui était porté par le PNR, donc on a décidé de monter un pôle de santé. Monter un pôle de santé parce que la réflexion s'est faite sur est-ce qu'on fait une maison de santé comme c'était l'incitation forte, et faire une maison de santé, ça voulait dire se réunir tous au même endroit et augmenter la distance de trajet pour les résidents. Donc on a décidé de conserver les lieux de soins tels qu'ils existaient, de faire une collaboration effective, c'est-à-dire de partager nos fichiers. Donc du coup, ce qui est positif, c'est qu'à la fois, on se réunit, on se voit, on se rencontre, on a une pratique qui est commune, on a des fichiers qui sont communs, donc les patients nous connaissent. Et ce qu'on a développé qui était intéressant, c'est la notion d'exercice multisite. Alors multisite, ça veut dire que du coup, nous étions 4 médecins, 2 collaborateurs se sont installés avec nous, qui ont été tous les deux soit internes, soit internes et externes. Donc au départ, on était 4 médecins, et maintenant, on a deux médecins qui, depuis 2 ans, travaillent avec nous. Ces 2 médecins ont été pour une externe chez moi, puis interne à Perlevade chez Catherine Priou. Le deuxième qui s'installe à Bugin, qui est notre collaborateur, a aussi été interne chez nous. Du coup, ce qui montre que le fait que quand des internes viennent travaillent avec nous, ils ont envie de rester et ils ont des projets d'installation. Et des autres internes qu'on a qui ne se sont pas installés avec nous étaient des internes qui avaient des attaches rurales dans d'autres endroits et qui vraisemblablement vont s'installer. Donc le fait de voir l'exercice en milieu rural et de voir l'exercice dans une collectivité qui travaille de façon communautaire, ça les incite à s'installer. Après nous, ce qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle l'exercice multisite. C'est-à-dire que nos 2 collaborateurs travaillent sur plusieurs sites. Donc en fait, ma collaboratrice travaille chez moi travaille un jour à Perlevade ou à Faux-la-Montagne. Elle fait également des vacations à l'hôpital. Donc ce sont des gens pour lesquels la notion de travail commun et de travail dans un territoire est une notion qui est importante. Et à la fois dans cette notion, on discutait tout à l'heure avec le conseil départemental, c'est des gens qui ont une notion du sens public qui est beaucoup plus importante qu'on imagine. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'investissent également dans un certain travail militant. C'est-à-dire que ma collaboratrice, elle travaille au centre d'orthogénie à Guéret, qui est un travail militant, qui est un vrai travail, qui est quelque chose qu'il faut faire, qui demande un investissement personnel. Donc ce sont des gens qui sont vraiment investis dans l'activité de soins. Et c'est une activité de soins qui est une activité de soins militante.
Non, ça c'est important. Pour moi, ce qui est modélisant, c'est ça, c'est que le fait qu'il ait eu des anciens internes ou des anciens externes qui ont découvert l'exercice libéral ici et qui mettent le pas, mettent un pied dans le libéral en étant collaborateurs, c'est vraiment la démonstration que c'est la bonne solution. Alors ça, les gens, ils le connaissent à la campagne, et c'est très bien, mais la même chose est valable en ville, quoi. À ce moment-là, les gens, ils découvrent l'exercice qu'on fait, ils découvrent ce qu'est le métier, et ils n'apprennent pas leur métier de médecin généraliste ou de médecin spécialiste libéral, ils ne l'apprennent pas à l'hôpital. Ils prennent contact avec les malades à l'hôpital, mais ils apprennent vraiment leur métier quand ils font leur stage en libéral, et c'est ça qu'on veut généraliser. Et en plus, si vous voulez, imaginons que les gens qui sont venus faire un stage en libéral retournent faire leur carrière hospitalière, eh bien les rapports entre l'hôpital et la ville seront radicalement changés du fait de leur séjour en libéral. Ils verront que les libéraux, c'est pas des types qui courent après le pognon et qui font de la médecine de merde. Vous voyez, c'est ça, parce que je vais vous dire que quand vous avez certains chefs de service hospitaliers et qui forment des internes et des chefs de clinique, je peux vous dire que souvent on a un peu de mal, donc des fois c'est un peu tendu quand même.
Par des médecins du coin, quand vous connaissez notre moyenne d'âge, c'est une moyenne d'âge qui est relativement élevée. Donc la plus jeune d'entre nous, de nous quatre, elle doit avoir 52 ans, le plus vieux 65 ans. Et la question qui se pose à tout médecin, enfin tout professionnel de santé, c'est qu'à un moment donné, il envisage un jour de s'arrêter. Et qu'il souhaite, c'est pouvoir s'arrêter en ayant le sentiment du travail accompli. Et le travail accompli, c'est à la fois d'avoir exercé son métier du mieux qu'il ait pu, et quelque part de ne pas laisser sa patientèle sans successeur. Et donc la question qui se posait pour nous, c'était, ça a été ça l'essentiel de notre réflexion, c'était comment attirer des professionnels pour avoir, pour pouvoir assurer la continuité, une continuité dans le temps, non pas la permanence des soins, mais la continuité dans le temps. Alors tout à l'heure, on parlait de la maîtrise de stage. Il faut savoir que la maîtrise de stage, ça demande un investissement en temps qui est colossal. La maîtrise de stage, ça veut dire que quelque part, vous allez avoir des internes qui vont venir avec vous, les consultations vont être plus longues, ça va vous prendre plus de temps, vous allez terminer plus tard, donc c'est un investissement en temps. Et cet investissement en temps, bah, ça demande d'avoir un certain confort. Donc, à la limite, donc les questions matérielles sont des vraies questions. C'est pour ça que je parlais de contrat social. Le contrat social, c'est OK pour avoir la disponibilité, pour être présent pour la population, mais qu'est-ce que me donnent les collectivités en échange pour que la vie familiale ne soit pas affectée ? L'aspect matériel, c'est pas matériel au sens être riche, c'est matériel au sens où faut pouvoir se payer des services dont on a besoin, quand on a besoin pour sa famille.
Et c'est important parce que c'est vrai que la population vit toujours, regrette le temps où le médecin était présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, faisait les accouchements, etc. Mais maintenant, si vous voulez, c'est un temps où les patients ne savaient rien. Le médecin savait pas grand-chose, mais il était censé tout savoir. Donc il y avait une espèce de respect, même voire de vénération pour le médecin, qui avait quand même sauvé quelques personnes. Et maintenant, si vous voulez, si Jean-Claude appliquait le modèle d'il y a encore 40 ans, ben c'est simple, il serait divorcé, il serait en burn-out, au bord du suicide, parce que les patients maintenant sont beaucoup plus exigeants. Ils connaissent, ils pensent connaître ce qu'ils ont comme pathologie, ils sont allés chercher sur internet dès qu'ils ont un pet de travers, et donc ils arrivent avec une information. Et vous, même si le médecin maintenant en sait plus et a plus de capacités thérapeutiques, c'est beaucoup plus dur d'exercer ce métier. Alors quand en plus vous n'avez pas de temps de récupération, c'est fini quoi, vous récupérez jamais, vous déconnectez jamais de votre métier, et donc c'est particulièrement dur. Et donc les médecins, il y a beaucoup de médecins qui sont en burn-out. C'est un élément qu'on commence maintenant à prendre en compte, hein. Et les gens qui font cette démarche-là. Quand vous acceptez de partager votre fichier, vous acceptez que vos camarades, ils aient un regard sur votre pratique. Et ça, je peux vous dire que ça vaut toutes les évaluations du monde. C'est une sacrée démarche que de partager le fichier des patients. Et moi, j'ai vu, et du coup, ça change un peu les mentalités des patients. Parce que moi, je suis dans un groupe de 5 médecins généralistes. Je peux vous dire que 95% des patients, c'était le docteur machin et pas l'autre. Quand ils se sont rendus compte qu'on a installé l'informatique, que quand on avait vu un des médecins du groupe, puis qu'il n'était pas là ce jour-là et qu'on allait voir un autre, qu'on avait leur fichier, qu'on savait ce qu'ils avaient comme médicaments, qu'on connaissait leurs allergies, que même on avait noté leurs petites habitudes, etc. Alors il y en a qui étaient un peu énervés, puis il y en a d'autres qui étaient rassurés. Et résultat, maintenant, il y a des patients qui sont... C'est le groupe qui les soigne. Il y a 40% des patients qui disent « Bon, ben, mon médecin traitant, c'est... bon, si c'est lui, ça va être lui, mais si c'est pas lui, c'est pas grave, je prends un des quatre autres. » Ça change les mentalités et ça simplifie le mode d'exercice. Et ça sécurise la prise en charge.
Et puis un autre aspect positif pour nous dans le fait de travailler en collaboration et notamment d'avoir des collaborateurs, c'est que ça nous a permis de nous libérer du temps pour pouvoir retourner nous former. Donc le paradoxe, c'est que tout en étant des vieux médecins, le fait d'avoir un collaborateur disponible, moi ça me permet là, de partir 2 jours par mois et d'aller me former à nouveau. Donc dans toute cette démarche, il y avait à la fois cet aspect comment assurer les successions, comment pouvoir trouver du temps pour aller se former, accueillir les internes, ce qui est aussi une formation en soi. C'est aussi une remise en cause, c'est une vraie formation en soi, accueillir les internes, pouvoir discuter avec eux. Et je dirais pas que c'est... Alors, paradoxalement, vous disiez que c'était la solution, je dirais pas que c'est la solution. Je dirais qu'il faut perdre l'aspect monolithique. Je pense pas qu'il y ait une solution, je pense qu'il y a des solutions. Et je pense que si on devait demander quelque chose au pouvoir public, c'est d'avoir de la souplesse et de pas être dogmatique. C'est-à-dire que le médecin libéral... C'est un médecin libéral, donc c'est quelqu'un qui a une certaine liberté d'esprit, qui a un certain individualisme tout en étant à la fois collectif. Et je pense qu'il faut nous permettre de nous organiser comme on le souhaite. C'est-à-dire que certains professionnels seront contents dans des grosses structures, d'autres seront contents dans des petites structures. Et donc, ce qu'il faut aussi imaginer, c'est qu'à la fois pour nous aider, ce qui serait bien, c'est d'avoir ce qu'on nous, on réclamerait en partie, c'est-à-dire d'avoir un vrai forfait structure qui nous permette, quel que soit le type d'exercice, c'est-à-dire qu'on exerce en groupe ou qu'on exerce éventuellement en individuel, d'avoir assez de confort, alors je dirais d'exercice pour pouvoir, par exemple, se payer une secrétaire, avoir un accueil, se payer un collaborateur qui ne soit pas le collaborateur au sens médecin du terme, mais un autre collaborateur.
C'est-à-dire même quand on est seul.
Même quand on est seul, voilà. Même quand on est seul, parce que ça simplifie les choses. Et quand on compare l'exercice médical en France avec l'exercice médical dans d'autres pays européens, ce qui est remarquable, c'est la différence de revenus. Alors, non pas en termes de revenus, mais en termes de recettes. Hein, c'est-à-dire qu'il faut il faut distinguer les recettes et les revenus. C'est-à-dire que nos confrères dans les autres pays peuvent se payer en Allemagne un médecin installé à 2,3 collaborateurs. Hein, c'est-à-dire que les systèmes d'assurance allemands lui permettent de se payer 2,3 collaborateurs. En France, la moyenne, c'est 0,3 collaborateurs. Hein, c'est-à-dire que la plupart des médecins, et on a des confrères qui avaient des secrétaires jusqu'à présent, qui, avec la montée des charges et sous, abandonnent leur secrétaire et passent par des secrétariats téléphoniques à distance.
L'évolution de la vie fait que les gens, maintenant, commencent à prendre des rendez-vous sur Internet. Ça commence à être à la mode. Mais sauf que, quand vous prenez rendez-vous sur Internet, vous donnez votre adresse, vous donnez votre numéro de portable, vous donnez votre mail, parce que pour qu'il y ait des rappels pour le rendez-vous, vous donnez le motif de la consultation, et l'opérateur qui gère ça sait chez quel médecin vous allez. Et là, on se dit, où passent ces données-là? Vous comprenez? Donc vous ne réalisez pas. Vous dites c'est commode, ça libère du temps du secrétariat. La secrétaire n'est pas là en train de dire machin truc muche, bon lundi, vous ne pouvez pas. Non, mais voilà, c'est ça qui est infernal. Alors quand on parle de forfait structure, en fait, on ne demande pas davantage d'argent. On ne demande pas davantage d'argent pour le médecin. On demande que le médecin, d'abord, il accède au forfait structure si vous avez une communication, si vous êtes capable d'avoir une messagerie sécurisée de façon à communiquer entre médecins. C'est une sécurisation de prise en charge du patient. Alors, vous accédez, vous avez le droit au forfait structure si vous avez les conditions de prise en charge correcte d'un patient avec une messagerie sécurisée. Votre forfait structure, il varie si vous avez un secrétariat présentiel, c'est-à-dire si vous assurez de l'emploi, vous assurez une meilleure prise en charge du patient. Donc, c'est pas de l'argent qui rentre dans la poche du médecin, mais c'est de l'argent qui crée de l'emploi et qui lui permet d'accueillir les patients correctement, deuxièmement. Troisièmement, le forfait structure, il augmente si vous acceptez les soins non programmés, c'est-à-dire que, bon, ici, vous n'avez pas trop le choix, mais sinon, le type qui accède, vous avez le gamin qui a de la fièvre, quelqu'un qui saigne ou qui s'est fait mal, machin, le type, il débarque, il n'a pas pris rendez-vous parce que, la veille d'être malade, vous êtes bien portant, et donc, le type, il débarque dans le cabinet, on accepte les soins non programmés. Si le médecin accepte les soins non programmés, son forfait augmente, et en même temps, quand vous savez que quand vous allez aux urgences hospitalières, à chaque fois que vous franchissez la porte des urgences hospitalières, le directeur d'hôpital perçoit 250 euros de mission d'intérêt général urgence. Eh bien, nous, on disait que le type qui débarque dans le cabinet, la consultation soit valorisée deux fois, de façon à ce qu'on soit incité à accueillir les soins non programmés. Et pendant que la collectivité dépense 50 euros de soins non programmés, elle ne dépense pas 250 euros d'urgence hospitalière. Ça nous paraissait être un bon équilibre. Et puis, votre forfait structure, il augmente. Si vous êtes maître de stage, si vous assurez la formation des internes. Et comme il disait, c'est un investissement, ça demande du temps, il faut discuter avec lui, etc. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait qu'un forfait structure, ça permet, un, de travailler dans de bonnes conditions, deux, de préserver l'avenir en accueillant des internes. Et ce forfait structure, il peut être autour de 40 ou 50 000 euros. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut un investissement massif, parce que la médecine libérale est menacée. Et les Français vont voir la différence s'il y a vraiment une désertification libérale qui s'installe, plutôt que d'aller consulter à l'hôpital. Hein. Moi, j'exerce dans une zone, on est à Paris, dans l'ancienne Seine, donc on touche Paris. Je vais vous dire, Meudon, qui est une ville quand même, a perdu 9 de ses médecins. Hein, c'est pas la zone, hein, c'est pas le 93. Hein. Ils ont perdu 9 de ses médecins généralistes. Vanves, qui est juste à côté de chez moi, en a perdu 4, et Clamart va en perdre 4. Donc si vous voulez, et donc ça dégringole, là, les types partent. Et tous les gens qui sont seuls ne seront pas remplacés. Les jeunes n'iront pas s'installer chez un mec qui bosse seul. Et moi, ça fait des années que je dis aux types, mais regroupez-vous, faites des choses. Moi, je suis dans le plus vieux groupe de France, un des plus vieux groupes de France a été créé en 52, il y avait deux médecins communistes, un qui s'était fait expulser du Maroc parce qu'il était communiste, et puis un autre qui s'est associé avec un mec qui bossait au Figaro, le frère bossait au Figaro. L'ordre des médecins à l'époque, en 52, trouvait d'un mauvais œil que des médecins puissent travailler ensemble. Hein, c'était pas bien vu, c'est-à-dire que ça sentait un peu le commerce, si vous voyez. Et donc,
en quelques heures, enfin en 50 ans, les mentalités ont changé. Hein. Et donc, moi, je me suis installé là-dedans en 73. On est 5 généralistes. Et alors, quand vous assurez une continuité des soins, quand le patient, il sait que, bon, lui, il est là, bon, bah, de 8h le matin à 8h du soir, vous êtes sûr d'avoir un médecin, et si c'est pas lui, ça va être son collaborateur. Bon, et ça vaut de l'argent, ça. Hein, ça sécurise. Ils ont appelé, alors ils sont au poil, c'est la convention, ils ont appelé forfait structure, mais ils donnent 1 250 €, ça pourrait peut-être passer éventuellement à 3 000 € dans 2 ans, mais c'est pas avec ça que vous allez payer une secrétaire.
Ce qu'il faudrait, il faudrait que le médecin puisse être détaché de toutes ces parties administratives, sortir le dossier, rentrer le dossier, payer les sous, vérifier les mutuelles, enfin tout. Toutes ces choses, ça prend de plus en plus de temps. Moi, je me souviens quand je me suis installé sur mon bureau, j'avais 3 bacs avec 3 formulaires. Maintenant, j'ai 2 casiers où il y a une 20aine de formulaires différents.
Ah ouais, c'est bon. On rase la moitié d'une forêt en France pour remplir les papiers de la sécurité sociale. Hein. Moi, j'ai un vieux bureau que le prédécesseur de mon prédécesseur avait. C'est un bureau qui fait 1 mètre de long. J'ai toute une rangée là, de trucs qui se succèdent tous les 5 cm, tous les formulaires de la Sécu. Alors, ils me disent d'aller sur le site Amélie pour remplir les trucs en direct et compagnie. J'ai autre chose à faire.
Monsieur le maire ?
Oui.
Vous êtes content là, de cette solution ?
Mais écoutez, si vous voulez, c'est un projet de territoire hein, qui a été mis en place en 2007, je crois, hein, avec le PNR et surtout le personnel de santé, les médecins, pharmaciens, les infirmiers. Il y a eu maintes et maintes réunions, hein. Il y a une mobilisation, puisqu'ils sentaient déjà, il y a en 2007, que le territoire devenait le désert, quoi, disons.
Il y a
hein.
eu une anticipation.
Ah oui, 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 je pense qu'il y a une anticipation. Hein. Vieillissement de la population, ça c'est un fait. Hein. Et il y a un autre fait aussi, c'est qu'on est sur un territoire où il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes en période hivernale, mais période estivale, vous pouvez avoir 15-20 000 personnes sur le territoire qui circulent. Donc il faut quand même que le médecin, le personnel de santé soit là pour assumer leurs responsabilités. Hein. Donc Royer a fait partie du projet là, des 5 maisons de santé, hein, sous l'impulsion de Dr Buchon et Dr Etilé, là, qui a été un défenseur de ces solutions, là, il faut le dire. Hein. Nous, on a eu une opportunité, on a acheté la maison, la moitié de la pharmacie, là où on loge les...
C'est important de loger les internes, c'est important.
C'est pour les
logements. Voilà. Logement, il y a 3 logements, 2 logements qui sont à disposition du médecin.
Mais c'est vrai que si Jean-Claude,
eh ben oui,
se tire, si vous voulez, bon, mais moi je suis persuadé que, sauf s'il part du jour au lendemain, mais moi je suis persuadé qu'avec les internes qui défilent, etc., ici, ils se disent, bon, c'est des conditions d'exercice qui sont correctes, il y a une collaboration, le type n'est pas seul dans son coin, et donc ce sont les bonnes conditions pour que les médecins viennent s'installer ici. Je pense que vous avez la garantie avec ce système que il y a une continuité.
Il y a une forte mobilisation quoi, il y a quelques années sur ce projet. Il y a eu le PNR, il y a eu la région aussi. Hein. Mm-hmm. Mais le personnel de santé là, qui a fait bouger les choses. L'URCAM aussi, hein, qui est intervenu également. Hein.
Combien d'internes pour les 4 médecins là ?
On a 2, 4, 5 internes.
Donc il y a 5 internes. Donc, ça veut dire que chaque année, il y a 10 internes qui découvrent l'exercice dans le secteur. Et sur les 10 internes qui découvrent l'exercice dans le secteur, il y en a forcément un qui va se dire, bon, bah, après tout, mon conjoint est à tel endroit, parce que ça aussi, hein, faut que le conjoint ait du boulot. Hein. Dans le temps, la femme du docteur, elle attendait tranquillement à la maison avec la cuisinière, secrétaire, machin, femme de ménage qui faisait tout. Là, le conjoint, il a du boulot et donc il faut qu'il en trouve. Hein, et donc c'est un des gros problèmes.
Hein. Oui, c'est ça.
Et c'est une des raisons aussi pour laquelle beaucoup de médecins, de jeunes médecins, ne s'installent pas parce que bon bah il faut que le conjoint ait du boulot. Et c'est le médecin qui est mobile, c'est-à-dire qu'il change de région où il va remplacer. Hein. C'est un vrai souci. Et ici c'est vrai que les emplois ils sont pas tout prêts quoi. Hein.
Oui, il y a une autre chose sur laquelle je veux intervenir, c'est que dans la question du conjoint, il y a aussi les questions du désert. Mais le désert n'est pas que désert médical. Il est aussi désert au sens désert des infrastructures. Alors, on peut imaginer qu'un département où on aurait, en association probablement avec l'État, un investissement sur les nouvelles technologies, essentiellement les technologies de communication, c'est-à-dire développer de l'accès à Internet à haut débit, voire à très haut débit, c'est quelque chose qui pourrait permettre à des professions intellectuelles qui peuvent se pratiquer à distance de s'installer chez nous, et c'est quelque chose qui est générateur d'emplois. Et souvent, quand on réfléchit à nos futurs confrères, ils ont des conjoints ou des conjointes, enfin des compagnons qui sont qui ont fait des études, qui ont des métiers, qui sont souvent des métiers intellectuels. Pas toujours, mais pas mal. Et certains de ces métiers intellectuels peuvent s'exercer à distance. Par contre, l'exercice à distance nécessite d'avoir des bonnes infrastructures.
Du bon débit. Et là,
donc, voilà. Et donc, la question du désert,
c'est un... On voulait enregistrer la conférence sur Périscope, là, mais on n'a pas pu... Il y a un trop faible débit, monsieur le maire.
Voilà, ça, monsieur le maire. Voilà. Et donc, la question du désert, elle n'est pas seulement désert médical, elle est aussi désert au sens désert des infrastructures. Parce que ça aussi, c'est à défendre. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à un couple qui va s'installer dans un endroit où il n'y a pas de poste, il n'y a pas de trésor public, il n'y a pas...
Voilà, c'est bon, trésor public, bon,
ça, ouais, c'est bon.
Trésor public, on peut s'en passer. Non, mais moi, j'ai souvent l'habitude de défiler avec ma pancarte, vous savez.
Oui.
Quand il y a des manifestations, je défile avec ma pancarte. Un métier d'avenir, médecin, postier, instituteur pour nonne ou moine. Hein, parce que les mecs, ils ont vu supprimer les postes, ils ont supprimer les écoles, et ils voient que le médecin il aille tout seul avec sa bite et son couteau s'installer dans un coin.
Ça, c'est complètement
c'est pas
acceptable. Territoire.
Après, on peut créer des emplois aussi.
Oui, mais la création d'emplois nécessite qu'il y ait une infrastructure base qui soit moderne. Et l'infrastructure de base moderne, je suis désolé, à l'heure actuelle, il faut qu'on ait de la communication de haute qualité. C'est-à-dire, il faut de la fibre optique. Au Japon, il y a des villes où ils sont à 100 mégas. Nous, quand on rame avec 20 mégas, quand ça marche, c'est bien. Et donc, il faut avoir aussi, dans le sens de la communication, il faut avoir ce qu'on appelle à la fois du débit ascendant et du débit descendant. Débit descendant, on l'a. Débit ascendant, on l'a pas. Dans la modernisation des techniques médicales, on pourra utiliser, par exemple, quand on parle de télémédecine, faire de la télémédecine, ça veut dire pouvoir recevoir des informations, ça, on l'a, mais pouvoir envoyer des informations pour pouvoir communiquer avec le collègue et envoyer des informations, il faut un débit correct. Il ne faut pas du débit haché, donc il ne faut pas que ça coupe. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un véritable... Il ne suffit pas de dire il faut que les médecins s'installent, mais pour qu'ils s'installent dans des bonnes conditions de modernité, de technologie, ils seraient contents de venir à la campagne, bah, faire de la télémédecine de qualité, ça veut dire qu'il faut un débit ascendant qui soit correct. Donc il faut mettre de la fibre optique, il faut creuser des trous, mettre de la fibre optique.
Avoir vu Marisol Touraine avec une sonde d'échographie en disant c'est la fin du désert médical, si vous n'avez pas de débit, il n'y a pas de débit. Hein. Et pourtant, si vous voulez, si vous avez quelqu'un qui a une douleur abdominale, que lui il a un échographe qui passe la sonde et qu'au bout de la sonde, il y a quelqu'un sur internet qui lui dise écoute, t'as mis ta sonde comme ci, comme ça, regarde ça, oui là tiens, il y a un calcul, ou si tu fais un Doppler, tu dis tiens là t'as une phlébite, etc. Vous investissez dans le débit, le type il fait son échographie, vous évitez au gars un transport en ambulance, une hospitalisation pour une suspicion de phlébite, vous gagnez du temps, vous sécurisez la prise en charge du patient. Et si le gars, il bosse dans des conditions correctes, il s'installe. C'est la responsabilité des pouvoirs publics d'investir dans les zones rurales, justement, pour maintenir un équilibre, pour faire en sorte que la population puisse y vivre. Et si vous n'avez pas les infrastructures, si vous n'avez pas les écoles, si vous n'avez pas le débit électrique, etc.
Ce que je veux dire, c'est que là, quand vous venez sur le territoire rural et que vous vous adressez à la force publique, vous oubliez peut-être... vous ne donnez pas les armes à la force publique de éventuellement contraindre des groupes qui font de l'argent sur des territoires qui sont extrêmement peuplés, pour dire, de la même manière qu'il y a un rapport oxygéné entre vous et le public, qu'il y a un rapport oxygéné dans l'autre sens, c'est-à-dire que le privé injecte aussi de l'argent dans les territoires comme la Creuse, où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de potentiel. Il faut que la solidarité marche dans les deux sens. Il faut que l'intérêt général soit perçu de la même manière dans les deux sens, qu'il y ait les deux forces qui viennent alimenter ce...
On est hors débat, on est dans une autre échelle, mais on est aussi dans le monde de la politique. Alors la politique, c'est quoi? Il faut aussi que les politiques aient du courage, et un politique qui a du courage, c'est un politique qui prend des décisions. Alors les décisions à prendre, c'est quoi? Vous avez d'un côté une île de France, ils sont 10 millions d'habitants, ils passent 2 heures dans les transports. Vous avez de l'autre côté des technologies qui existent. Il suffit d'investir pour qu'un certain nombre de gens de profession intellectuelle puissent venir s'installer à la campagne dans des bonnes conditions. C'est des décisions politiques, c'est pas des décisions économiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, le politique ait le courage de faire ce qu'il a à faire, et c'est pour ça qu'il est politique. C'est-à-dire pour prendre des décisions au-delà des intérêts financiers. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des politiques qui sont politiques, mais ils prennent pas de décisions. Non, mais c'est pas une question de moyens, c'est une question d'être politique. Et un politique, ça devrait prendre des vraies décisions. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis, c'est que si on prend la décision d'investir, par exemple, dans les communications, et notamment dans la fibre optique, dans les zones rurales, à la fois, on va aider les zones rurales, et à la fois, on va aider les zones urbaines surpeuplées, ou des gens des zones urbaines qui ont envie de venir à la campagne pour venir s'installer, du coup, ça serait rentable. Et à un moment donné, il faut que le pouvoir politique prenne des vraies décisions politiques.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut avoir une chance d'améliorer la communication, instaurer la fibre partout en France sur l'ensemble du territoire qui n'est pas de zone blanche, c'est un investissement qui dépend effectivement de l'État.
Comme exemple de décision politique, là, on va être tous contents parce que vraisemblablement, on va avoir les Jeux Olympiques. Donc, on va être contents. Paris va pouvoir gaspiller quelques milliards sur lesquels on ne reviendra pas. Et on aura les milliards pour faire les Jeux Olympiques. Mais par contre, avoir les milliards pour mettre de la fibre optique dans la Creuse ou dans l'Allier ou n'importe où, on ne les aura pas.
À moins qu'on fasse une épreuve de canoë-kayak chez vous, vous voyez.
C'est au niveau des communautés de communes où il y a des projets, effectivement. La fibre, elle est arrivée quand même un tout petit peu depuis quelques temps. Hein. Ça avance, mais pas assez vite. Tant que maire de Royères,
dans les zones urbaines, la fibre...
On intervient, mais bon...
Non, mais en zone urbaine, la fibre n'arrive pas régulièrement. Moi, je suis dans la rue principale de Clamart. Là, la fibre, elle est au pied de mon cabinet. Ma maison, je suis dans une zone pavillonnaire qui est à 150 mètres à vol d'oiseau du cabinet. On va dire 300 mètres. Ils passent pas, ils installent pas la fibre parce qu'ils disent que c'est pas assez rentable pour eux. Parce qu'ils installent la fibre pour un pavillon. Alors vous imaginez, si dans une commune comme Clamart, où il y a 50 000 habitants, le mec il installe dans la rue, il y a des immeubles, alors, et il installe pas dans la rue, il y a des pavillons.
La question que je vous posais tout à l'heure, c'est est-ce que vous appelez de vos voeux la force publique pour qu'elle contraigne les groupes privés qui sont là pour ramasser un maximum de gens quand ils sont là, en se foutant du pavillon qui se trouve à 100 mètres.
Là, il y a un moment donné, vous savez,
vous accorde le marché, vous installez là où vous voulez, vous prenez l'espace, mais vous me servez tout le monde. Et c'est là qu'elle ne sert pas tout le monde. Et c'est là que le rapport n'est pas équilibré.
Et vous savez, il y a 2 ans, j'ai écrit avec un de mes collègues du Parisien, j'ai écrit un bouquin, La fin de notre système de santé, point d'interrogation. Et moi, je voulais l'appeler la grève de couilles. Parce qu'il y a une citation de Chirac qui dit « En France, on grève de tout, on grève des reins, on grève des foies, on grève des cœurs, on grève des couilles, sauf des couilles, parce qu'on manque de donneurs. Hein » Et ça, c'est exactement ça, si vous voulez. Moi, que les groupes privés se goinfrent, et n'accepte pas de perdre un petit peu de pognon, alors que moi, pouvoir public, je leur permets de se goinfrer dans des endroits, il faut que les groupes privés soient contraints d'investir dans la ruralité où ils vont peut-être perdre un peu de pognon, alors qu'ailleurs, ils en gagnent des masses. Si je leur autorise à construire un gros stade où ils vont se rembaisser les pognons, je veux qu'ils investissent dans le petit stade du patelin du coin pour que les gamins puissent jouer au foot. Vous comprenez? C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut contraindre les groupes privés à investir dans la ruralité. Il ne faut pas leur donner le choix. Vous voulez travailler en France, très bien. Mais vous investissez là, mais là-bas, vous m'assurez la fibre. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce que j'appelle un gouvernement.